première intervention, où nous avons cherché à croiser, Nadine Rougy et moi-même, nos regards sur la manière dont les politiques d'énergie et les projets urbains durables fabriquaient des formes de vulnérabilité sociale et résidentielle. Alors, on va avoir une présentation en deux temps, mais qui se répond très largement. Je vais d'abord présenter mes propres travaux, une quinzaine de minutes, et Nadine présentera les siens ensuite. Voilà. Alors, moi, je vais commencer par vous parler donc, des projets urbains durables à partir de travaux de recherche que j'ai menés dans le cadre d'une thèse de doctorat jusqu'en 2014, puis qui s'est poursuivi sous diverses formes, notamment sous une réflexion menée avec Jérôme Boissonnade sur l'évaluation du label écoquartier et la manière dont ces labels peuvent produire des formes de normes par le processus même d'évaluation. Donc moi, dans mes travaux, j'ai analysé les décalages entre les processus de production de la ville durable, et notamment le cas des écoquartiers, qui sont des projets urbains devenus un peu iconiques de la production de cette ville durable, et des modes d'habiter assez différents. Donc j'ai eu une méthode assez large d'analyse de la production de ces écoquartiers à différents niveaux, au niveau des appels à projets et des labels nationaux, ou des labels régionaux, l'analyse d'une douzaine de projets, puis un travail de terrain que j'ai mené dans deux quartiers, où j'ai mené des entretiens habitants et des entretiens avec des acteurs, et j'ai observé des démarches participatives qui avaient été mises en place. Première approche, c'est que l'idée de dire qu'on est face à une approche techniciste de la production de la ville durable. À partir des années 90, on a la diffusion en France de la production de ces fameux éco-quartiers ou quartiers durables, avec l'ambition de transformer les manières de produire la ville et de diffuser de nouvelles techniques sous la forme, par exemple, de labels bâtiments basse consommation, HQE, etc. La ville durable, dans les années 90, début des années 2000, apparaît très largement comme une affaire de technique. On a une valorisation très importante des savoirs experts sur la production de la ville, et les systèmes techniques sont présentés comme des conditions incontournables de cette durabilité. Ça réduit très largement le champ des possibles dans la production urbaine, avec quelques dispositifs techniques qui sont facilement transposables, visibles, attractifs, qui sont diffusés. On peut faire le constat d'une homogénéité assez importante des projets qui sont menés en France, avec la diffusion de ce que Françoise Navet-Bouchénine appelait des bonnes pratiques de conception qui se diffusent en France et ailleurs dans le monde. Mais, petit grain de sable dans la machine, on a, au début des années 2010, des premiers retours sur les grands écoquartiers français, notamment le quartier de Beaune, qui avait été labellisé Grand Prix National Écoquartier, dont Le Monde fait ses grands titres en 2011, en disant qu'on a les ratés du premier écoquartier français. On a d'autres types d'articles qui émergent à peu près à la même période, dans les années 2010, sur l'éco-fiasco de l'écoquartier des temps durables à Limay-Brévan, dans le Val-de-Marne. Et une succession d'articles comme ça qui mettent l'accent sur le fait que les performances imaginées ne sont pas atteintes. L'idée principale, à partir de ce moment-là, c'est qu'on bute sur les pratiques. On n'arrive pas à... ces pratiques ne sont pas conformes à ce que l'on avait imaginé dans la période de conception. Et donc c'est en transformant ces pratiques qu'on atteindra les performances. Et on cherche, à partir de ce moment-là, plutôt à diffuser des normes d'habité et à encadrer les pratiques des habitants. Ces éco-quartiers donc, développent tout un volet social qui s'oriente vers l'adoption d'éco-gestes et l'adaptation des usages aux exigences des éco-techniques qui sont mises en place. Ça passe notamment par des mécanismes de responsabilisation des habitants face à la modification de leur comportement, afin, je cite là un terme du label éco-quartier de 2014, afin de susciter et d'accueillir des nouveaux comportements plus responsables. Donc on est bien dans une approche qui est technique et normative, qui prévaut dans la conception de ces quartiers, avec une conception des usages qui sera appréhendée comme une potentielle contrainte, un frein aux performances. Donc on est à une entrée qui est à la fois spatiale et technique, et qui a des effets importants, c'est-à-dire que les dimensions sociales de ces éco-quartiers visent avant tout à soutenir les dispositifs éco-techniques, et à favoriser l'acceptation sociale des projets qui sont mis en place. Donc à partir des années 2010 notamment, on a la diffusion très large de ce que j'ai appelé les normes d'habité, qui sont à la fois des normes de gestes précis sur les questions énergétiques, sur les questions de mobilité, mais qui touchent en fait plus largement toute la sphère de l'habité, en faisant un appel, comme je disais tout à l'heure, très large à la question du vivre ensemble, qui doit être renouvelé, et on va développer ce qu'on appelle, à partir de 2012, un nouvel art de vivre ensemble, à partir de l'époque active. Alors, ça prend différentes dimensions. Il s'agit tout d'abord de faire accepter certains principes, certains dispositifs qui sont présentés comme des impondérables face aux contraintes environnementales, en développant tout un arsenal de démarches de sensibilisation pour faire accepter la densité, pour insister notamment sur la dimension morale de la densité, sur les compensations qu'on peut y trouver, des espaces végétalisés, des espaces extérieurs, etc. Et un usage important de la rhétorique éco et durable pour légitimer les actions qui sont mises en place. Ça prend aussi la forme de la diffusion d'un savoir habité qui renvoie les individus à leur responsabilité individuelle dans le fonctionnement et dans la gestion de leur lieu de vie, et puis leur responsabilité individuelle dans la situation globale, en faisant un lien assez systématique entre le changement climatique et les gestes quotidiens individuels des habitants. Alors on retrouve ces éléments-là, par exemple, dans des carnets qui sont diffusés aux habitants de différents écoquartiers. J'en ai pris simplement un ici, le carnet d'écoquartier de Brétigny-sur-Orge, en Essonne, où nous demandons, je cite là le guide, nous demandons aux habitants d'être des éco-citoyens. C'est-à-dire que l'on a conçu un quartier qui est parfait sur le papier, et donc c'est aux citoyens de faire perdurer les performances par les gestes simples de la vie quotidienne, par des gestes essentiels pour la qualité de notre vivre ensemble. Alors d'autres types de guides qui sont largement diffusés, ici on est dans la ville de Cézabat, qui a un peu la même rhétorique, c'est-à-dire qu'on a produit un quartier qui est performant, et maintenant c'est aux habitants de le prendre en charge. Ça peut passer aussi par des illustrations, ça vous n'oubliez pas, si c'est... dans différents quartiers, alors qui peuvent concerner la question des consommations, ici consommation d'eau, mais aussi le jardinage, puis d'autres arguments qui sont utilisés ici, qui mêlent à la fois des arguments moraux et des arguments économiques sur les économies d'eau dans une copropriété à Lyon. Ces approches normatives s'incarnent dans la figure d'un éco-citoyen, qui sont largement développées, notamment dans un des appels à projets du ministère du Développement Durable, qui demandait aux porteurs de projets de raconter la journée d'un habitant du quartier en 2020. Et donc là, ici, quand on lit tous ces discours qui sont produits par environ 300 candidats à cet appel à projet, on a une masse de discours qui sont très intéressants et qui renvoient, alors, qui sont souvent très caricaturaux, mais qui renvoient à un modèle idéal de pratique qui est assez similaire d'un quartier à l'autre, qui s'appuie sur des images, alors là j'en ai mis une, mais qui est... typique de ce qu'on peut retrouver dans ce type de présentation. Et puis à droite, vous avez un panneau d'affichage d'Eiffage qui a déjà imaginé la vie des habitants de Smartseille. On est là dans le centre-ville de Marseille, qui est quand même un centre plutôt populaire. Et donc on voit bien les décalages entre la réalité urbaine et des projets qui sont proposés. Et dans ces figures d'éco-citoyens qui sont largement marquées socialement, on a une forme très importante d'invisibilisation des classes populaires, des reproductions de formes de domination sociale, et donc des modèles de pratiques qui sont socialement marqués, qui sont ceux de cadres urbains qui vivent plutôt en centre-ville. Une autre manière de faire, c'est les démarches participatives qui apparaissent comme étant une manière de responsabiliser les habitants. On a mené un travail avec Camille Gardès d'analyse d'une cinquantaine de projets, la manière dont ils concevaient les démarches participatives. Et on s'aperçoit qu'on a très très peu de démarches qui soient réellement participatives, on a très peu de coproduction avec les habitants. Par contre, on a une place importante pour toutes les démarches de sensibilisation aux éco-gestes et pour toutes les formes de responsabilisation des habitants dans ces démarches participatives. Et enfin, on a des dispositifs spatiaux qui viennent encadrer les pratiques, pour limiter certaines pratiques, pour en favoriser d'autres qui sont plus présentées comme étant vertueuses. Alors ça peut être dans les logements, l'individualisation des compteurs, mais aussi des dispositifs de mesure, de limitation des consommations avec des alertes en temps réel aux habitants. On a la diffusion de tout ce qu'on appelle des nudges, c'est-à-dire les coups de pouce qui vont permettre aux habitants de se mesurer par rapport à leurs voisins, par rapport au quartier, par rapport à la ville. Et puis, dans l'espace public, ça peut être aussi simplement la réduction du nombre de places de stationnement, des incitations à la mobilité douce, et on va éviter ou faciliter certaines pratiques de l'espace. finalement, ce qu'on voit, c'est que ces approches normatives mettent l'accent sur la responsabilisation, sur la transformation des comportements. On a la diffusion de normes d'habité qui sont socialement sélectives et qui s'appuient de manière générale sur des nouveaux récits, sur des formes de storytelling de la ville qui apparaissent comme étant un nouveau modèle. On va construire la ville durable comme étant la nouvelle ville, la nouvelle manière d'habiter. On va réinventer les jardins ouvriers en les transformant en jardins familiaux. On va invisibiliser des pratiques populaires, diffuser une murale qui est plutôt culpabilisante envers notamment ce qu'on appelle plutôt l'image du pauvre qui serait dépendant à la consommation, à la voiture, qui serait réticent au changement, etc. Qui sont des images qui sont très présentes dans les discours. Et des modèles diffusés qui sont socialement marqués, je l'ai dit à l'instant. Finalement, les contraintes de cette transition écologique, les efforts demandés, s'imposent avant tout à ceux qui n'ont pas forcément choisi d'être là. Et qui n'ont pas forcément les ressources pour faire face aux sacrifices de cette transition, et donc plutôt aux classes populaires. Et donc dans une dernière partie, je vais montrer rapidement comment les pratiques habitantes sont à la fois mises à l'épreuve au quotidien, dans les espaces collectifs comme les espaces les plus intimes. On s'aperçoit aussi qu'on a des résistances qui sont à l'œuvre, avec des formes de détournement, de réappropriation, et puis des formes de reproduction des rapports de domination. Alors, les usages sont en effet mis à l'épreuve au quotidien, à la fois dans les espaces publics, alors je l'ai dit, avec la réduction du nombre de places de stationnement, mais aussi des habitants qui ne comprennent pas certains dispositifs. Par exemple, les douves qui servent à recueillir les eaux pluviales, qui sont considérées comme des douves pour certains habitants, car elles sont un obstacle à certaines pratiques, à des usages d'espace. L'importance de certaines zones humides qui empêchent tout usage des espaces verts pendant la saison pluviale. Et puis d'autres cas d'expérimentation urbaine, par exemple l'expérimentation de rues partagées sans trottoir, qui sont très insécurisantes, notamment quand elles se trouvent devant des écoles, mais qui font partie de ces projets d'éco-quartiers. Et puis le dernier élément, c'est qu'on a l'importance du contrôle social dans la conception même de ces projets, qui découle de la diffusion de ces normes d'habité. Et finalement, le domaine de la déviance va s'élargir à toutes les pratiques qui ne serait pas durable. Finalement, ça amène à des formes d'incompréhension, d'insécurisation des pratiques ou de conception de lieux qui sont relativement inhospitaliers aux pratiques qui ne se conforment pas aux règles initiales. Dans les logements, on a, j'ai déjà dit quelques mots, mais on a aussi des dispositifs techniques et les entretiens que j'ai pu mener dans les différents quartiers montrent qu'on a un sentiment de moindre maîtrise du logement, voire même un sentiment de dépossession de son logement, car on a des dispositifs techniques implantés à l'intérieur du logement que les habitants ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas, notamment tout ce qui est dispositif intelligent de régulation de la température, tous les nudges avec des alertes sonores, par exemple, dès qu'on atteint un certain seuil de consommation, et puis qui sont liés aussi à des défauts de pose ou d'entretien de certains dispositifs. Là, ça renvoie notamment à des entreprises qui sont peu formées à ces techniques, et à une désincurisation finalement aussi des métiers du bâtiment qui se retrouvent face à des dispositifs qu'ils ne savent pas mettre en œuvre ou gérer par la suite. On s'aperçoit aussi qu'on a des formes de responsabilisation, voire de culpabilisation, qui sont renvoyées au personnel de nettoyage des espaces, par exemple en implantant des linos écologiques qui doivent se nettoyer avec certains types de produits. On a des charges qui se reportent sur les personnels de nettoyage et sur les personnes, plutôt les femmes, qui sont en général chargées des tâches domestiques. Donc ça renvoie aussi à une dimension genrée des vulnérabilités qui sont créées ici. Ce sont les familles monoparentales et plus particulièrement les femmes qui ont à assurer la transition au quotidien. Donc ces normes, plus généralement, elles touchent d'abord les populations les plus fragiles, et notamment les femmes. Et donc on voit bien que cette inégalité sociale se cumule bien souvent avec des inégalités de genre qui renforcent les épreuves pour les habitants et les habitantes de ces quartiers. Mais les habitants font preuve de tactique pour se réapproprier leur logement. Ils montrent qu'on a une capacité de résistance des usages avec des formes de réappropriation physique. On a, j'ai observé, des réappropriations de ballons d'eau chaude, de dispositifs par des napperons faits main. Dans certains logements, un élément, un dispositif qu'on ne comprend pas, dont on n'arrive pas à se saisir, on va l'habiller, on va le décorer pour se l'approprier. Et puis des appropriations fortes des espaces extérieurs, quand il y en a, parfois au mépris des règlements intérieurs, notamment dans le logement social. Et là, ça renvoie, dans ces formes d'appropriation, à des asymétries importantes dans les capacités d'appropriation entre les propriétaires et les locataires du logement social qui n'ont pas les mêmes règles à respecter et qui se retrouvent souvent en conflit avec leurs bailleurs. Dernier élément, on a des habitants qui prennent en charge ces enjeux de durabilité eux-mêmes et qui peuvent aboutir à des formes de reproduction des rapports de domination. Alors là, je prendrais simplement l'exemple d'un quartier sur lequel j'ai particulièrement travaillé, un quartier à Rennes, quartier Beauregard, qui n'est pas classé comme étant un des grands éco-quartiers français, mais qui est un quartier dans les années 90 qui a cherché à développer pas mal d'engagements autour de l'aménagement durable, paysager, etc. Dans lequel on a des groupes d'habitants qui sont assez similaires sur le plan de leur trajectoire, des jeunes familles de cadres moyens qui ont vécu des expériences collectives importantes, le vécu des chantiers, le manque d'équipement au démarrage du quartier, etc. Et qui ont des attentes communes en termes de cadre de vie vert, sain, proche du centre-ville, qui ont les moyens de réaliser ce compromis en étant à la fois proche du centre et en même temps dans un cadre agréable. Et qui ont commencé à se mobiliser autour de la question du développement durable en créant une association très dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont ils ont considéré cet enjeu du développement durable avec eux-mêmes des approches relativement techniques et normatives, alors même que le projet urbain initial ne l'était pas tant que ça. Et donc ils ont commencé, par exemple, à diffuser des chartes de développement durable qui étaient affichées dans tous les halls d'entrée avec un référent par hall d'entrée qui était chargé de vérifier que ses voisins triaient bien leurs déchets, qu'ils utilisaient bien au maximum le vélo pour se rendre à l'école, etc. Ce qui n'a pas du tout fonctionné. Mais on a eu, par contre, une diffusion aussi de guides réalisés avec des enfants, souvent, et avec des habitants de ce type-là, qui ont été largement diffusés en ayant aussi des éléments, vous voyez, pédagogiques et relativement normatifs qui sont diffusés largement dans le quartier. Alors ça a eu un effet inverse, c'est-à-dire qu'avec aujourd'hui un quartier qui a presque 20 ans, qui est toujours en construction mais qui a presque 20 ans, on s'aperçoit qu'on a des trajectoires qui se diversifient. On a des habitants du logement social qui ne se reconnaissent pas forcément dans les valeurs qui sont portées par ce groupe-là. Et donc on a aujourd'hui de plus en plus de conflits entre ce groupe social qui s'est développé autour de ces questions durables et puis d'autres groupes qui ressentent plutôt les contraintes de cette transition en se sentant en sentant que leurs pratiques sont délégitimées, qu'elles sont hiérarchisées, et on a des formes de résistance voire de rejet des discours qui sont portés par l'association Vivre à mon regard, pour ne pas la nommer. En conclusion, je vais aller très vite, on voit qu'on a une mise en avant de la responsabilité individuelle qui fait peser des contraintes inégales sur les pratiques habitantes. Finalement, habitants en écoquartier, ça a l'air soumis à un ensemble de conditions qui sont socialement sélectives. On a un deuxième constat qui est que les écoquartiers sont porteurs de normes d'habité qui produisent et reproduisent des vulnérabilités, qui invisibilisent certaines pratiques, notamment les pratiques populaires, avec une hiérarchisation, une qualification des pratiques qui produisent ces formes de vulnérabilité. Et puis on peut se demander si on ne va pas vers des politiques urbaines néo-hygiénistes, c'est-à-dire qu'on a une mise en avant d'une expertise technique qui délégitimise l'expérience de l'habité et les formes d'expertise d'usage. Des conflits de légitimité face à ces fameuses bonnes pratiques qui sont prônées et qui sont diffusées, et qui empêche en fait toute discussion autour des objectifs de la transition, des chemins pour s'y engager ou des choix à opérer. Je vais laisser la parole à mon ami pour la suite.
Merci. Bah, écoute, je crois qu'on va être très complémentaires, ce qui montre qu'on est un certain nombre à se poser les mêmes questions, donc c'est sans doute les bonnes questions que nous nous posons. Moi, la courte présentation que je vais vous faire est lié également à mon travail de recherche et plus particulièrement à un travail d'habilitation à diriger les recherches que j'ai terminé l'année dernière et qui avait pour objectif d'interroger la normalisation des conduites attachées à la production de la ville dans deux contextes que j'ai qualifiés de fabrique de la ville, hein, mais que j'ai qualifié de ville sûre et ville sobre. Et j'ai essayé de faire le lien dans cette habilitation. De faire le lien entre ces deux modes de production de la ville qui ont pu se passer, je dirais, à des périodes un petit peu différentes de la urbaine, mais qui ont la particularité, entre autres, grâce à l'exemple des éco-quartiers, de se recouvrir en ce moment. C'est-à-dire que ces notions de ville sûre arrivent à devenir un moyen de complexifier en quelque sorte la mise en place de la ville sobre. Donc, juste ces quelques points en introduction pour un peu plus caler mon objet de recherche. C'est-à-dire que je travaille plus particulièrement sur la façon dont les politiques publiques, en quelque sorte, président au principe de vivre ensemble en ville. Et la particularité de cette prise en charge publique est qu'elle s'appuie régulièrement sur les enjeux de société et sur l'énonciation de ces enjeux de société. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, l'énonciation dans les années 90 de l'enjeu sécuritaire, qui permettait aussi la mise en place de dispositifs publics, mais qui étaient associés en quelque sorte, à la rénovation de l'espace urbain, dans certaines zones urbaines, d'où la rénovation urbaine des quartiers. Et ce qui m'a paru intéressant, c'était de regarder ce dispositif d'action publique en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en place d'une ville durable qui pouvait répondre justement, parce qu'elle était prise en charge par l'action publique, à des enjeux de société. Un des points importants, c'est que cette fabrique de la ville est associée à une normalisation des conduites habitantes et qu'il y a un certain nombre de mots d'ordre adressés aux citadins de manière un petit peu récurrente. Ces mots d'ordre sont prescriptifs, tu l'as dit tout à l'heure, et ils sont le fait d'acteurs institués, parce qu'une fois qu'on parle d'action publique et de politique publique, bien évidemment ce sont des acteurs qui sont derrière et qui mettent en œuvre des dispositifs. Et à travers un regard posé sur ces acteurs, bien évidemment, j'ai cherché à comprendre ce qu'était le gouvernement des conduites qui pouvait être affecté à la fabrique de la ville et comment la normalisation devenait un outil au service de ce gouvernement de conduite. Donc Foucault parle plutôt de gouvernementalité. La gouvernementalité, c'est l'art d'arriver à faire se superposer à la fois des dispositifs, on peut qualifier là de techniques, hein, qui sont aussi des dispositifs de pouvoir, et l'incitation au changement, mais bien évidemment avec pour corollaire l'idée de responsabiliser les gens en les faisant en quelque sorte auteurs de leurs propres mots. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai pas mal regardé. Et véritablement, il y a quelque chose, moi, qui m'a intéressé, c'est aussi l'exercice que je me suis obligé en quelque sorte aujourd'hui, c'est de regarder ce qui se passe dans l'espace où se rencontrent les incitations, alors que nous, citadins, alors que les habitants, savent très bien identifier par eux-mêmes les enjeux de société et produisent justement pour eux-mêmes un certain nombre de solutions qu'on pourrait aussi isoler en disant que ce sont des pratiques ordinaires et que moi je qualifie à travers le mot de savoir d'usage, qui est un mot de sociologue français, puisque c'est Yves Saint-Omer qui a produit cette idée. Donc, en essayant de regarder effectivement la question de vulnérabilité dans ce contexte-là, j'ai cherché, moi, à essayer de comprendre véritablement comment la ville durable pouvait être un espace de mise en vulnérabilité des individus, alors qu'elle s'auto-identifie, particulièrement par l'action publique, comme une solution. Entre autres, à la disparition de l'espèce humaine, puisque c'est une manière de résoudre, entre autres, la crise climatique, c'est de produire une ville durable à travers, entre autres, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des modèles urbains susceptibles d'aligner sur l'échelle de Milo toutes les solutions possibles qui vont nous permettre de faire face à une situation de difficulté, mais qui répond elle-même à un enjeu de société. Donc véritablement, j'ai inventé pour cela un néologisme que j'ai appelé, moi, la ville sobre, et qui va avoir une particularité, puisqu'elle va, cette ville sobre, instrumentaliser de manière institutionnelle la notion de sobriété à deux niveaux. Ça recoupe exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est à la fois la fabrique matérielle de la ville, qui va être complètement instrumentalisée, qui va être instrumentalisée à partir de la production de dispositifs, de solutions, qui vont constituer un cadre qui va permettre de façonner les modes de vie habitants et surtout de transformer en quelque sorte le rapport à l'espace en rationalisant le rapport à l'air, à l'eau, à l'acoustique, un peu à ce ressenti que l'on peut avoir maintenant chez soi, mais aussi de chercher à faire en sorte que les habitants aient un regard qui évolue sur la matérialité de leur logement, sur les matériaux, sur les ambiances, et également cette volonté de transformer les pratiques de l'habiter en instituant quelque chose que je trouve assez habile, de mon point de vue, c'est véritablement dénoncer la nécessité de se soumettre à ces systèmes comme étant quelque chose de nécessaire et de véritablement subordonner l'amélioration technique et, des logements à en quelque sorte la réalisation d'économies, en essayant de diffuser ce principe de sobriété qui va véritablement avoir pour corollaire de soumettre justement les habitants, nous, les citadins, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire à un référentiel de solutions qui ne sont pas habitantes, qui sont techniques, qui sont produites par des ingénieurs. J'aurais pu aussi faire cette séance sur le droit des ingénieurs dans le domaine de la ville, mais donc véritablement. L'idée, c'est d'énoncer la nécessité de pouvoir disposer d'un habitant devant se conformer aux critères qui sont celui de la norme durable et sobre. Également, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que le corollaire, c'est bien évidemment d'éditer une incitation à bien habiter la ville. Et là, on retombe encore sur des référentiels, ce que tu as présenté. Je vais passer très rapidement là-dessus parce que suffisamment, et on voit bien qu'il y a des référentiels qui nous encouragent à habiter la ville de la bonne manière. Tout à l'heure, tu citais les bonnes pratiques de la conception, mais il y a aussi de bonnes pratiques, et tu les as aussi bien illustrées, qui viennent normaliser en quelque sorte, et qui viennent faire que la question énergétique rentre effectivement comme un attendu dans les pratiques domestiques pour véritablement leur donner une dimension opératoire assez inédite. Et donc, de ce fait, la normalisation de l'espace devient une manière de normaliser les conduites qui permet de maîtriser les situations à risque en faisant le principe au fondement de la fabrique de la vie. Et de ce fait, on voit bien qu'il est intéressant, il est même impératif de regarder la manière dont les citadins, dont les habitants eux-mêmes s'approprient, rendent propre, au sens de Marion Segaud, ces questions de sobriété pour eux-mêmes produire leur propre réponse à cela. Et c'est dans cette expertise que moi je regarde la question de la vulnérabilité, parce que les choses ne sont pas égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un grand déséquilibre entre la puissance des référentiels et leur diffusion, leur institutionnalisation, et surtout ils sont devenus partie prenante des processus de conception, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Si on veut habiter maintenant dans un habitat éco-responsable, un éco-quartier ou même ne serait-ce qu'un bâtiment performant, on doit faire face, on doit agir avec ces dispositifs. Et de ce fait, la sobriété s'est glissée dans l'unicité de l'habiter et dans ce qui lie l'individu et ce qui fait le chez-soi, de sorte qu'il n'a plus le choix et doit faire avec un certain nombre de ces solutions. Dont on peut dire aussi qu'il a la nécessité de se protéger, c'est-à-dire que s'il veut, et c'est automatique chez l'habitant, il préserve sa manière d'agir chez soi, et de ce fait, la question que l'on peut poser, c'est s'il n'a pas à se protéger de ces dispositifs qui sont parfois extrêmement intrusifs, parfois très violents, quand on communique à des gens avec très peu de ressources, le coût de la journée qui viennent se dérouler chez soi en termes de chauffage, en termes de consommation d'eau, c'est extrêmement violent, sachant que ces habitants sont regardent au millimètre, en quelque sorte, leur consommation. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est véritablement en quoi les pratiques de l'habité sont devenues vulnérables. La question des vulnérabilités est intéressante à regarder, tout simplement parce que, et dans mon travail, c'est ce que je fais, quand je regarde ce qui est dans le regard qui est sur les sorts, je regarde les catégories politiques. Et la question de la vulnérabilité est une catégorie politique. Donc véritablement, comment interroger cette notion de vulnérabilité alors que c'est une catégorie qui permet entre autres aux institutions, de parler de la situation de fragilité d'un certain nombre de populations. Moi, travaillant particulièrement sur une catégorie populaire, on voit bien que la notion de vulnérable a été utilisée depuis de nombreuses années pour parler de la précarisation, mais surtout pour parler de la nécessité de responsabiliser, ce que tu disais tout à l'heure, hein, les plus pauvres à leur situation de précaire et d'en faire les acteurs qui leur permettent de sortir de leurs conditions. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette situation, c'est bien de ne pas se tromper. J'interroge bien le processus de mise en vulnérabilité via un certain nombre de dispositifs, via la fabrique de la vie des individus, et pas leur état de vulnérable. Puisque il est lui-même une manière de prendre en charge les individus depuis la fin du 19e siècle. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est interroger ce processus de mise en vulnérabilité. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment il est accompagné d'une injonction toujours plus grande faite aux plus pauvres de se justifier de leur situation. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr de voir que, à une situation d'insécurité, où on implique, on dit aux plus pauvres, vous devez faire attention à faire preuve de vivre ensemble, à faire preuve de beaucoup plus de civilité à l'égard de nos voisins, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, à les responsabiliser à une meilleure gestion des ressources chez eux. Et quand on travaille un peu plus finement, et à la fin de mon propos, dans quelques minutes, j'illustrerai à partir d'une enquête que j'ai réalisée à Nanterre, dans un site d'habitat social, qui n'était pas l'éco-quartier, mais qui était en situation d'être très encadré parce que rénové énergétiquement par le bailleur social. On voit bien que les mots des plus précaires, désormais, sont recouverts par une question de sobriété énergétique où on va les encourager à mieux consommer des ressources, alors que bien souvent, ils viennent de pays subsahariens où la gestion de l'eau, par exemple, est un principe de vie. Et une des grandes caractéristiques également, c'est que l'institution ignore absolument la réalité des pratiques habitantes, ignore la finesse avec laquelle elles peuvent elles-mêmes prendre en charge un certain nombre d'enjeux de société qu'elles énoncent pourtant. Donc, ce qui, moi, m'a paru intéressant dans ce cas de Nanterre, c'est de regarder où s'exprimait la compétence habitante dans la prise en charge des questions de sobriété. Et véritablement, il est apparu à l'issue de l'enquête que l'environnement matériel était lui-même propice à un certain nombre d'économies qui pouvaient être elles-mêmes dispendieuses et qui étaient en tout cas considérées comme dispendieuses par les ménages. Donc, une réalité, c'est que les ménages modestes, qui sont considérés comme les vulnérables, qui sont pris en charge à partir de cet état, améliorent eux-mêmes leur espacialité, je le disais tout à l'heure, hein, mais arrivent à partir d'outils extrêmement ordinaires, à faire de l'économie, à mettre à profit leur environnement technique, alors que cet environnement technique n'est pas forcément lui-même pris en charge par la norme. On peut assister, par exemple, à des situations où on va détourner complètement un circuit électrique pour le rendre économe dans l'utilisation de l'éclairage. On va pouvoir répondre à une défaillance d'un bailleur social dans la production du chauffage pour qu'il soit moins coûteux en énergie, alors qu'on a complètement identifié que les charges que l'on dépense sont elles-mêmes coûteuses. Donc on va avoir un système de mise aux normes internes au logement propre aux normes de l'habitant, et sans doute beaucoup plus efficace. On va voir également une diffusion de ces bonnes pratiques à l'échelle d'une case d'escalier, à l'échelle peut-être même de familles qui peuvent se mettre en relais sur les bonnes pratiques à faire économie à l'échelle d'une cité. Et surtout, on voit des mécanismes de socialisation primaire et secondaire qui sont de l'ordre des apprentissages, des inculcations, et qui vont faire savoir d'usage susceptible d'être reproduit à différentes situations pour véritablement avoir des pratiques tellement efficaces qu'elles sont et en attente de légitimation institutionnelle. C'est-à-dire, ce qui n'est pas compris, c'est qu'on se retrouve dans des situations où non seulement l'injonction est parfaitement maîtrisée, c'est-à-dire que tous les référentiels que tu as cités sont connus, mis en œuvre, mis en pratique, même au-delà, avec ce que disait tout tout à l'heure, des solutions supplémentaires pour faire écho à ces injonctions institutionnelles, mais on ne comprend pas qu'on soit d'autant plus soumis à ces injonctions qu'on est soi-même producteur de solutions et qu'on va se retrouver sollicité par des ambassadeurs de l'énergie qui vont venir chez vous vous expliquer quelles sont les solutions et que, en fait, ces solutions sont déjà appliquées à l'échelle du logement. Donc on voit bien que il se met en place quelque chose que tu as énoncé aussi tout à l'heure. Il y a une forme de disqualification des pratiques ordinaires. Alors, moi, je l'étudie à partir des plus pauvres, mais c'est la même chose à partir, je vais commencer à dire, des moins pauvres, hein, c'est-à-dire que ça concerne à peu près tout le monde. Et on va se retrouver avec des injonctions qui produisent une posture dite de disqualification et qui va créer, à l'intérieur du logement, une mise en discussion entre la norme et la déviance. Norme institutionnalisée alors qu'elle est complètement comprise et acquise, et la déviance, faire des habitants, nous-mêmes, hein, des acteurs déviants par rapport à des dispositifs d'injonction, et de ce fait, vulnérabiliser un certain nombre de familles qui se retrouvent dans une situation où leur savoir-faire, sobriété, synonyme d'économie, va être disqualifié par l'institution, alors qu'il est lui-même vecteur d'un certain nombre de solutions qui expérimentent elles-mêmes. La rénovation thermique, parfois par des dispositifs hyper intéressants. Donc on se retrouve à l'échelle du logement avec un paradoxe qui est celui, en quelque sorte, d'un savoir expert qui va venir défier les savoirs d'usage et créer des conflits, et un conflit à l'échelle du savoir-faire sobriété dans le logement, alors que cette mise en concurrence entre le savoir expert et le savoir d'usage, et elle-même expérimentée ne serait-ce que par la façon dont il est nécessaire de prendre en compte, ne serait-ce que ces factures d'énergie, puisqu'elles sont elles-mêmes basées sur un référentiel expert, et que très facilement dans l'enquête, il y a cette idée des populations de se dire « je ne comprends pas du tout la facture d'énergie, et c'est sûrement pas avec cet outil que je vais arriver » à faire baisser soit mes charges, soit mes dépenses, parce que c'est quelque chose d'absolument similaire. Et de ce fait, se développe un discours à l'échelle du domicile, à l'échelle des pratiques ordinaires, qui a complètement compris que le marché de l'énergie en France, entre autres, le marché de la rénovation énergétique, le marché de la sobriété, est bien un marché, est bien quelque chose qui est là pour vendre des solutions, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Et de ce fait, on a un discours de défiance à l'égard des grands opérateurs de l'énergie, parfois à l'égard des bailleurs sociaux. Et cette situation de mise en conflit est extrêmement préjudiciable, en réalité, à la lutte, je dirais, contre le changement climatique, si on passe à une échelle supérieure, puisque, bien évidemment, les choses sont mises en concurrence et non pas, en quelque sorte, sous la forme d'une forme de filiation qui pourrait être intéressante et qui pourrait contribuer, justement, à combattre la vulnérabilité qui est celle des plus pauvres et non pas en faire une catégorie qui va être un relais permanent de la prise en charge publique. Et je vais terminer ma présentation sur cette slide qui sera une slide en quelque sorte de conclusion autour d'une dimension qui moi m'a paru extrêmement intéressante et révélée par l'enquête, qui est celle de la carrière de sobriété habitante, c'est-à-dire que les habitants eux-mêmes sont inscrits depuis très longtemps dans quelque chose qui fait sobriété et qui met en valeur, en quelque sorte, qui vient défier la fabrique de la ville sobre avec une expression à l'échelle domestique d'une manière de faire sobriété qui se tisse en quelque sorte de génération en génération et qui crée en quelque sorte des manières d'appliquer le passage d'une position à une autre, l'idée d'avoir des figures, ce que tu disais toi tout à l'heure, de bricoleurs, qui vont développer des dispositifs tactiques à l'échelle du logement, et qui vont en quelque sorte aussi diffuser cette analyse des dynamiques susceptibles de faire sobriété d'une génération à une autre, créer un système d'amélioration des capacités que chacun peut avoir et du coup d'enchérissement des savoirs, et quelque sorte une sorte de bibliothèque familiale attachée aux questions, aux questions de sobriété. Et ce qui est intéressant quand on regarde les choses du nord au sud de la Méditerranée, ou plutôt du sud au nord de la Méditerranée, c'est qu'on a quelque chose de un répertoire qui transcende les continents à l'intérieur et qui fait justement carrière de sobriété et qui malheureusement est mis à l'épreuve de la fabrique de la vie durable, puisque certaines pratiques on va dire, mises en échec. Et l'exemple que je donne, c'est la mise en parallèle de deux solutions. Vous avez sans doute rencontré des économiseurs d'eau, qui sont quelque chose que l'on peut facilement employer sur des systèmes, et qui vient défier, entre autres, par exemple, l'utilisation du baquet, qui permet de garder l'eau usée et d'en faire des usages un peu rationalisés à l'échelle du logement. Et on voit bien que ces deux solutions ne sont pas forcément complémentaires. Et j'ai le témoignage d'un habitant d'une cité d'habitat social qui venait me dire que les ambassadeurs d'énergie pouvaient dire « mais vous n'avez pas besoin d'utiliser ce baquet, cette manière de récupérer l'eau, parce que maintenant vous avez des mitigeurs qui vous permettent de moins dépenser de l'eau », alors qu'il n'a pas compris qu'effectivement c'était un moyen en quelque sorte de rationaliser et d'importer une économie de l'eau à l'échelle du ménage. Donc le dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que véritablement, il y a des rapports de sobriété qui sont engagés à l'échelle du domicile, et ces rapports à la sobriété sont éphémères, ponctuels, ils sont gouvernés par l'action publique, et ils sont heureusement faits de va-et-vient entre l'intérêt que peuvent avoir, que nous pouvons avoir, nous les habitants de la ville, avec la chose énergétique, avec la question environnementale, qui se transforme en enjeu personnel de lutte contre contre le réchauffement climatique, pour la sobriété, et que le problème est bien qu'on est dans des enjeux personnels, c'est-à-dire qu'il y a une vraie individualisation des pratiques à travers l'ensemble des solutions qu'on a énoncées tous les deux, et que ce qui manque véritablement, c'est une forme de mise en collectivité de ces solutions, alors que nous sommes sur des modèles de fabrique de la ville. La ville sobre est un modèle qui s'incarne dans l'éco-quartier, et qu'on a bien là un vrai paradoxe entre cette modélisation de la réponse à l'enjeu de sobriété et cette individualisation des pratiques, cette qui est liée à la responsabilisation individuelle que l'on attache justement aux pratiques éco-responsables. Merci de votre attention pour cette question. Merci.